Quel plaisir aujourd'hui d'accueillir une personne qui est, je le disais, solaire, pétillante, qu'on avait reçue ici en stage il y a quelques, maintenant, quelques mois, quelques années même, et qui a fait son petit bout de chemin et qui est là aujourd'hui en tant qu'invité. C'est un vrai plaisir. On est bien dans Un jour, un livre, un auteur. Philippe Denis est là, Diego Rabal aussi, bien sûr.
Bonjour Philippe,
bonjour
Cybercast,
Philippe.
bonjour
Bonjour
Diego.
Philippe.
Et puis, je vous laisse bien sûr le soin de parler de notre invité qui est tout sourire.
Alors, elle est tout sourire. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'effectivement, c'est une personne qui est tout à fait solaire, que nous avons vu il y a quelques semaines de cela au Salon du Livre, donc pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre, puisque c'était elle qui tenait donc le stand de son éditeur.
Oui.
Je parle, bien entendu, des éditions Passiflore. Alors, les éditions Passiflore, on va en parler, hein. Maison d'édition créée en 2009, dont le siège social est basé aujourd'hui à Dax, hein, donc dans les Landes, au cœur même la capitale de la Chalosse. Deux axes, hein, au niveau de cette maison d'édition aujourd'hui, la littérature contemporaine et la littérature du Sud-Ouest. Et pour en parler avec nous, Martha Serra, qui est assistante d'édition. Bonjour Martha.
Bonjour.
Bonjour Martha.
Merci d'être venue jusqu'à nos studios pour aujourd'hui donc parler des éditions Passiflore. Donc je le disais, les éditions Passiflore, donc maison d'édition créée en 2009, qui depuis, on l'a vu sur le stand l'autre jour, hein, a fait son petit bout de chemin. Plusieurs romans ont été primés. On aura d'ailleurs la semaine prochaine donc Jean Darrow alias Violette Ayot ou Violette Ayot alias Jean Darrow, hein, pour L'Enfant-Don, qui est un des bouquins donc édité par les éditions Passiflore. Alors avec vous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un peu cette histoire des éditions Passiflore et puis votre histoire à vous, savoir comment vous êtes rentré dans cette maison. On va commencer par les éditions Passiflore créées en 2009. Qui a créé cette maison d'édition et quelle est son histoire de 2009 à 2023?
Oui, alors à la base, c'est le projet de trois amis qui, en 2009, décident de créer cette maison d'édition à Dax. Aujourd'hui, nous sommes quatre, donc Patricia Martinez, qui est la fondatrice et actuellement la gérante de la maison d'édition, Manon Arnaud, qui est arrivée en suivant et qui a fait un parcours dans la traduction, puisqu'elle a un master en traduction passé à Bordeaux. Moi, je suis arrivée en suivant par rapport...
Vous êtes arrivée quand
Donc, il y a 3 ans, suite à la pandémie, en fait.
D'accord.
Je cherchais un contrat d'apprentissage pour un master d'édition que je faisais à Bordeaux. Et après la pandémie, de toute façon, le milieu éditorial, c'est toujours très difficile puisque les grosses structures ont déjà leurs employés définis et elles prennent pas forcément des jeunes qui se forment. Et les petites maisons d'édition, enfin petite n'est pas péjoratif évidemment,
hein,
c'est l'édition indépendante.
C'est parce que c'est une petite maison d'édition qui ne fait pas du bon boulot.
Exactement.
Voilà, tout à fait. Ça, on est bien
Mais
d'accord.
C'est toujours compliqué puisque souvent c'est des très petits locaux. Quand l'éditeur ne travaille pas seul chez lui. Donc j'ai eu la chance de tomber sur les éditions Passiflore qui ont accepté de signer un contrat d'apprentissage avec moi pour 2 ans. Et puis l'aventure a continué puisque suite à mon master, je suis restée avec l'équipe. Et très heureusement d'ailleurs, j'en suis très contente. Et ensuite, plus récemment, on a Maëlys Robin qui nous a rejoint et qui prépare également... Elle est en alternance donc et elle prépare un master en communication et marketing. Donc elle vient compléter finalement cette équipe de 4 femmes qu'on est aujourd'hui avec une autre variante du métier puisque c'est aussi ça. Il y a de la littérature, il y a du graphisme et il y a cette partie communication avec relation avec les libraires qu'il faut aussi assurer.
Le rôle que vous tenez aujourd'hui, Martha Serra, c'est lequel donc au sein de la maison d'édition?
Comme je le disais, finalement, dans une maison d'édition indépendante, on est forcément obligé de toucher un peu à tout. Alors, je suis assistante éditoriale, mais finalement, je touche un peu à tout. Je suis aussi bien sur les salons qu'on se partage. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Patricia Martinez et Maëlys Robin qui sont aujourd'hui au Salon du Livre à Orthez et qu'on embrasse. Et donc, comme je le disais, du salon du livre à la partie maquette, à la relecture des textes, à la relation libraire, on touche un peu à tout finalement.
Donc vous faites à la fois partie depuis le début, c'est-à-dire quand le tapuscrit arrive donc à la maison d'édition, partie du comité de lecture.
Tout à fait.
Pour la sélection effectivement des romans. Bon, sachant, je le disais, vous allez nous en parler après, qu'il y a deux axes au niveau des éditions Passiflore aujourd'hui, la littérature contemporaine et puis une littérature plus du sud-ouest, donc ce qu'on appellerait la littérature de terroir aujourd'hui, sans que ça soit effectivement...
Oui, c'est pas tout à fait même de la littérature, il y a vraiment un axe plutôt parce que...
Alors, pas que roman par littérature. Hein. Par littérature, c'est très large. Hein.
C'est vraiment des ouvrages plutôt beaux livres sur le patrimoine, le sport. On définit cette collection comme étant la culture du Sud-Ouest.
Voilà, parce que vous avez notamment un ouvrage qu'on a vu l'autre jour à Bagnères sur le rugby.
Oui.
Bon, qui est vraiment un ouvrage pour moi de terroir. Hein. On le sait, le Sud-Ouest, la Gascogne, restant quand même une terre emblématique du rugby, qui a fourni et qui continuera à fournir l'équipe de France du rugby dans le présent, dans le passé bien entendu, mais aussi dans le futur de nombreux joueurs du rugby. Et donc vous avez sorti un ouvrage là-dessus.
Oui, parce que notre collection rugby est assez fourni. Et donc, juste pour rebondir sur l'aspect terroir, certes, c'est quelque chose, un sport qui est évidemment très ancré dans le Sud-Ouest, le rugby, mais prochainement, donc dès que la France ne sera plus en compétition, et on espère que ce ne sera pas pour tout de suite, dès que la France ne sera plus en compétition...
Après la finale, on est d'accord.
Voilà, gagné. Après la finale, voilà. Exactement. on publiera un petit bouquin qui s'appelle Côté ouvert, chronique ovale, et qui est finalement un best-of de toutes les chroniques publiées sur le blog de Richard Esco, qui est journaliste à l'équipe, qui a été consultant sur Europe 1, qui est actuellement toutes les veilles et après-match de l'équipe de France et sur le plateau de France Info Télévision pour commenter les matchs. Donc, on va quand même chercher des auteurs qui ont un lien avec finalement le rugby, pas que du terroir.
Pas que du terroir, voilà. Tout à fait, qui est vraiment là-dessus. Alors, côté ouvert, vous, Diego Arabal, qui êtes un spécialiste du rugby, vous savez ce que ça veut dire, côté ouvert au rugby?
Pas du tout, moi.
Pas du tout. Alors, en fait, Philippe Suberka, je sais qu'il le sait en tant que numéro 8. Hein. En fait, quand vous avez une mêlée, et que la mêlée, donc, en fait, est pour l'équipe adverse, en fonction du côté où va sortir le ballon, le demi de mêlée va dire perdu ouvert ou perdu fermé. Perdu ouvert, donc les troisièmes lignes qui ne voient pas le truc, qui sont en train de pousser, savent qu'il faut partir. Donc quand l'équipe est en face, si on est côté droit du terrain, donc côté gauche, si c'est côté ouvert, ou si c'est côté droit, c'est-à-dire là où il y a le moins d'espace, on va dire côté fermé. Voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc,
j'aurais appris quelque chose.
Vous avez bien fait de venir, Diego Arabal. On l'a dit, on apprend beaucoup de choses, mais on compte bien vous former à l'avenir.
Mais vous êtes une source de savoir, un puits de savoir.
Mais j'ai joué au rugby, donc c'est pour ça, je me souviens.
Après, il doit pas regarder souvent les matchs, parce que même si on joue pas au rugby, côté fermé, côté ouvert, c'est des choses...
Oui, c'est des termes tournants.
Quand on entend ça sur le terrain de rugby, côté perdu fermé, ouvert, perdu, le Dumé-Mêlé disait perdu ouvert, perdu fermé. Donc c'était... On avait Dumé-Mêlé, de temps en temps, qui, alors lui, avait beaucoup d'humour, qui disait baille à gauche pour la balle, baille à droite. Alors on ne savait pas, on ne savait pas si c'était à gauche ou à droite. Bon, voilà, c'était... De temps en temps, il aimait bien faire de l'humour comme ça pendant les matchs, qui n'était pas en jeu. Il ne se permettait pas de le faire.
C'était donc notre parenthèse rugby.
Notre parenthèse rugby, qui est quand même une parenthèse dans les éditions Passiflore, qui est pas neutre du tout. Alors on va aussi parler de la littérature contemporaine, parce que vous avez une nouvelle collection aujourd'hui.
Oui.
Quand je dis une nouvelle collection, c'est que vraiment vous avez
une nouvelle charte.
Une nouvelle charte graphique, qui est quand même vachement plus saillante que les précédentes. Alors notamment avec le papier, les caractères qui sont utilisés et qui permettent vraiment aujourd'hui, quand on voit un roman, de savoir que c'est un roman des éditions Passiflore. Et c'est le but d'une charte graphique. C'est de se dire de loin, sans voir les éditions, on sait que c'est la charte graphique des éditions Passiflore, ce qui n'était pas le cas dans les précédents livres. Et là, franchement, bravo, parce que c'est vraiment, vraiment bien. Sur les collections littérature, vous avez plusieurs auteurs. Alors, il y a Jean Darrot, Patrick Faure. Parlez-nous un peu de Jean Darrot, parce que c'est quelqu'un qu'on va recevoir, qui a sorti chez vous deux livres, L'Enfant d'eau et L'Homme semence.
Alors, pour l'homme semence, initialement, il a été publié par les éditions Parole qui se trouvaient en Provence et dont Jean Darrot était le fondateur. Aujourd'hui, donc, on s'apprête, les livres arrivent de chez l'imprimeur d'ailleurs lundi, donc on va republier une nouvelle version, là, donc, dans notre charte graphique, avec l'explication du mystère qu'il y a eu autour de ce livre, L'homme semence. Donc ça va être une version un peu enrichie finalement d'un avant-propos. L'homme semence, c'est un ouvrage qui a eu, on va dire que c'est un peu un ovni de l'édition indépendante, puisque c'est un ouvrage qui s'est vendu à près de 60 000 exemplaires, ce qui est un chiffre assez fou. Et qui a été publié initialement sous le pseudonyme de Violette Ayot. L'homme semence, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aurait vécu dans un petit village des Alpes à la fin du 19e siècle et pendant le soulèvement républicain. Donc il faut savoir que le soulèvement républicain, il n'a pas touché que la commune de Paris et il a été notamment...
Donc 1710, hein, on parle bien de 1710, voilà.
Oui,
hein,
tout à fait.
Au moment donc de la chute hein, du Deuxième Empire, hein, Napoléon III.
Tout à fait.
Voilà.
Et donc dans les villages justement des Alpes et de la Provence, ça a été très très fort. Et on n'en parle pas assez. On parle de la commune de Paris, mais c'était assez inconnu. Et Jean Darrot, en tant qu'éditeur des éditions Parole, venait de publier une nouvelle collection qui ne contenait qu'un seul titre. Et cette collection s'appelait « Mains de femmes ». Le but, c'était de mettre en avant la littérature écrite par les femmes. Or, les mois passés, aucun autre texte n'arrivait. Et Jean, qui baignait dans ce milieu où on parlait beaucoup du soulèvement républicain encore, se disait, bon, il faudrait peut-être écrire quelque chose autour de ça.
Surtout que dans le soulèvement républicain, il y a une femme nommée Louise Michel.
Oui.
Qui a été déportée par la suite en Nouvelle-Calédonie et qui aujourd'hui a donné son nom à beaucoup d'écoles, beaucoup de rues en France. Hein. Et d'ailleurs, voilà. Je ne suis pas persuadé que tous les gens, quand ils voient écrit Louise Michel, ils savent forcément que cette femme, durant la Commune, a eu un rôle éminemment important. Quoi.
Tout à fait. Et donc, Jean a commencé à écrire et puis lorsqu'il a terminé L'homme semence, il s'est dit, bon, maintenant, il faut que je lui trouve un nom de femme, puisque cette collection Main de femme, on ne peut pas publier un homme. Donc, il publie ce texte en tant que témoignage de Violette Ayot, puisque Ayot, c'était un nom assez courant, finalement, de ce côté-là, de la France. Et le texte va très vite avoir un gros succès. La première année, ils en vendent 50, et la deuxième année, 500, puis la troisième année, 5000. Et ça fait comme ça son petit bout de chemin. Et Jean Darrot est forcé à un moment de ne plus révéler que Violette Ayot est en fait Jean Darrot, puisque les lecteurs et lectrices, en lisant ce texte, disent « mais c'est évident, il n'y a qu'une femme pour écrire ça ». Et donc le mythe va continuer, mais finalement les mystifications littéraires ont existé de tout temps, que ce soit avec Romain Gary, qui on le rappelle a eu le Goncourt deux fois.
Avec sous le nom d'Émile Ajar après.
Exactement,
tout à fait.
Ou encore Jean Giono qui avait inventé cette histoire de l'homme qui plantait des arbres.
Tout à fait, oui.
Donc finalement c'est une mystification littéraire contemporaine que Jean a décidé de révéler avec la publication de L'Enfandon chez nous, qui est paru donc cette année au mois de mai. Et qui se passe cette fois-ci dans les Pyrénées. Et pour les 18 ans donc de L'Homme semence, puisque cette année, ça faisait 18 ans que l'ouvrage avait été publié, il a donc décidé de dévoiler la paternité de L'Homme semence.
Et ça s'est passé comment ?
Dans l'ensemble, ça a été assez bien reçu. Les libraires, les lecteurs ont compris ce choix-là. Évidemment, il y a des questionnements qui restent toujours, mais ça, vous en discuterez avec Jean Darrot qui vous expliquera bien mieux que moi. Mais donc, L'Enfandon commence aussi à faire son petit bout de chemin, tout comme L'Homme semence. De nombreux libraires l'ont lu, l'ont aimé. Et là, donc, on se situe dans les Pyrénées, puisque le projet de Jean Darrot est d'écrire une trilogie autour des origines. c'est un sujet qui le passionne. Il vous expliquera encore une fois pourquoi. Mais donc là, on est à une époque différente encore, avec l'enfant don. On est au début du XXe siècle, avec en fond historique la guerre civile en Espagne. Et on se trouve dans les Pyrénées avec, en fil rouge, cette histoire que je suis sûre que vous connaissez et que nos auditeurs, dont nos auditeurs ont entendu parler aussi. C'est que dans de nombreux villages pyrénéens, du Pays Basque jusqu'à Perpignan, il y avait ce qu'on appelait le droit d'aînesse absolu. C'est-à-dire que l'on soit fille ou garçon, si on était l'aîné de la famille, on devenait la tête de la maison, le chef de la maison. Et donc, c'était aussi une façon d'envisager notre société actuelle par un autre prisme que sous le patriarcat. Et nous, évidemment, quand le texte nous est arrivé... c'était évident qu'il fallait le publier en tant que maison d'édition exclusivement féminine, puisque nous sommes quatre femmes. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, et puis le texte est très
Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, vous n'êtes reçue que par des hommes.
Voilà, donc je suis l'exception qui confirme la règle, il faut toujours une femme parmi des hommes.
c'est exactement ça.
Je voulais revenir juste sur l'homme-semence, parce que juste avant qu'on reparle de l'enfant don, hein, qui est un peu le prolongement, dans l'homme-semence, alors ce qui est magnifique dans ce roman, c'est qu'en... Je lis donc sur votre catalogue des éditions Passiflore. En 1852, Violette Ayot est en âge de se marier quand son village des Basses-Alpes est brutalement privé de tous ses hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851. Donc je disais tout à l'heure du 1870, je me suis trompé, c'est au début donc, du soulèvement républicain, donc juste avant le début du Deuxième Empire. Il s'écoule plus de 2 ans avant qu'un homme n'apparaisse. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait les femmes se disent d'un seul coup, voilà, il n'y a plus d'hommes pour enfanter. Et si, quand il y aura un homme qui arrivera au village, il faudra qu'il puisse faire l'amour à toutes les femmes pour que le ventre des femmes puisse continuer à effectivement enfanter. Mmh. Et c'est vraiment un texte qui est très beau parce que le but, ce n'est pas de se disputer un homme. C'est de se partager un homme. Et c'est vrai que ce n'est pas dans la conception que l'on a effectivement en France. Et il y a cette volonté à un moment donné de dire qu'il faut qu'il y ait cette continuité, pas qu'au niveau des naissances, au niveau de la continuité de filiation, de génération. Et c'est en ce sens que l'homme semence, déjà le titre est très beau, je trouve, il est vraiment extrêmement donc fort là-dessus. Et on voit d'ailleurs sur la couverture de l'homme semence qui a été publiée par les éditions Parole, il y a un petit graphisme ce qui représente donc un spermatozoïde. Et ça, je trouve que quand on le voit, voilà, c'est vraiment un titre qui est extrêmement évocateur. Et sur l'enfant don dont vous parlez, alors j'ai lu les deux livres. Ce que j'ai trouvé formidable sur l'enfant d'homme, on en reparlera avec Jean Darrot donc, la semaine prochaine, c'est cette capacité à un moment donné à montrer comment des gens qui sont passés ici, qui sont venus en France, qui se disent on va s'intégrer parce qu'on est accueilli par un pays, continuent malgré tout à avoir leur cœur qui bat en résonance et en écho avec l'actualité donc, de leur pays et notamment la guerre, et qui sont prêts à y repartir pour défendre des valeurs, quitte à y mourir. Voilà.
Oui, puis on ne va pas dévoiler l'histoire, mais c'est vrai que, donc, comme le dit le titre, l'enfant don, c'est l'histoire d'un enfant qui est donné à une maison qui ne peut pas en avoir. Donc toujours dans cette suite de faire vivre la communauté. Une maison qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de suite, c'est...
D'aîné,
c'est une maison qui va mourir. Donc la communauté dit non, on ne peut pas laisser faire ça. Et il y a un don d'enfant qui n'a rien à voir finalement avec l'idée de GPA aujourd'hui ou autre chose. C'est un don d'amour. Et puis voilà, cette histoire d'origine qui continue tout le livre et qui est très forte.
Voilà, et qui est un très très beau livre. Mais on va en parler, de toute façon, on en reparlera la semaine prochaine avec Jean Doreau. Vous resterez avec nous, vous reviendrez la semaine prochaine. Donc Martha Serra, assistante d'édition donc à la maison d'édition donc Passiflore, hein, dans laquelle effectivement vous avez été intégré. Vous avez parlé tout à l'heure de votre diplôme. Je suppose que vous l'avez fait au DUT Métiers du Livre, à l'IUT Métiers du Livre donc à Bordeaux.
Exactement.
C'est ça le master, d'accord, ok. Ben on a eu à une époque une chroniqueuse hein, ici hein, qui n'était autre que ma fille, hein, Chloé Noni, qui avait fait le DUT Métiers du Livre également donc à Bordeaux et qui aujourd'hui, hein, on en parlait l'autre jour en aparté, est libraire donc à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.
Voilà. Très belle librairie.
Voilà, très belle librairie, puisque je crois que c'est la deuxième librairie de France en surface, hein, 2500 mètres carrés de surface. Quoi.
Après Mola, j'imagine.
Après Mola, ouais, ils se disputent, il paraît que bon, ils se disputent quand même le leadership, quoi. C'est-à-dire ils repoussent un peu les murs pour gagner un mètre carré.
Voilà, et ils mettent la cave de dalle
et on les mètres carrés, ouais. Bon, voilà, c'est de bonne guerre, ça, après. C'est pour ça. Bon, ben voilà, écoutez, se dire donc à la semaine prochaine d'édition Passiflore, on va reparler d'eux, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Hein. Donc la semaine prochaine, en parlant des autres romans, on recommande aux personnes de se procurer donc le catalogue 2023, hein, du deuxième semestre 2023 que j'ai sous les yeux des éditions Passiflore. Patrick Faure, Là-bas à la forêt m'attend, hein, qui est donc un livre sur les poilus qui, durant la Seconde Guerre mondiale, donc, ont été fusillés pour l'exemple.
La première.
Oui. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui suivaient.
Nous suivons tous. Hein.
Je voulais savoir s'il y avait des gens qui suivaient.
J'ai vu un peu le niveau master. Hein. Moi, voilà. C'était un peu dormi avec Diego, mais là.
Je refais prise de Philippe Subercase. Voilà. Là-bas à la forêt m'attend, durant la Première Guerre mondiale, donc un livre effectivement sur les fusillés. Pour l'exemple, Évanoui, donc de Mathilde de Télossi, comment vous dites ?
De Télossi, qui va apparaître dans les jours à venir.
Dans les jours à venir, apparaître en novembre 2023. Voilà, donc Jean Darrault, l'enfant dont on en a parlé, L'homme semence donc de Violette Ayot, Géographie d'un père, on en a parlé ici aussi sur présence de Pascal devant Bruchy, hein, donc en fait où c'est la relation avec un père et on en fait une géographie.
Oui.
Voilà, et je trouve que c'est absolument.
Ça vous avait plu, oui.
Voilà, ça m'avait énormément plu. Le Béret du Maître que j'ai pas lu encore, hein, mais dont on parlera dans les semaines à venir. Voilà, d'Anthony Sauron. Les Jours de sable aussi que j'ai dans ma pile à lire de Chantal Detchery, qui a eu le prix Yolande Legrand, prix Ardua, donc pour l'ensemble de son œuvre. L'effacement de Pascal devant Bruchy, toujours, qui a été lauréat du festival du premier roman de Chambéry 2015, et prix du métro Goncourt 2015, donc également. Voilà, hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein, que cette maison d'édition qui a l'air petite a quand même. Des romanciers effectivement bon qui sont connus et puis voilà on peut se le procurer et le site pour aller sur le site des éditions Passiflore.
Tout à fait, www.éditions-passiflore.com.
Passiflore comme la plante, hein.
Oui, P-A-S-S.
Et au singulier, parce que sinon, vous tomberez sur nos confrères qui, eux, publient de la littérature catholique. Je leur fais un peu de pub au passage, visiblement.
Passiflore avec un S.
Oui.
D'accord. Alors sans S, c'est...
C'est nous.
C'est vous. Et avec un S,
c'est eux. Voilà. Bon, ben, on se dit à la semaine prochaine.
Pourquoi pas.
Ben oui, Martha revient de
avec
Dax.
Elle
a pris l'abonnement, le télépéage. Voilà. Et puis elle sera
là. Je suis un peu chez moi aussi.
Il y a le train.
Voilà,
exactement.
Donc,
vous êtes venu en stage. Voilà, c'est ça. On l'a pas dit tout à l'heure ici à Radio
Présence. L'a dit. Je l'ai dit à
la présentante.
Oui, j'ai dit. Et Martha a gardé beaucoup d'amitié parce que quand je dis qu'elle est solaire, c'est vrai que c'est une personne. Quand elle est là, vous le savez. Et
elle illumine.
Complètement. Et une personne très intéressante. Voilà.
Merci Philippe.
Eh bien non, mais je le pense. À la semaine
prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.